Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette rencontre donc consacrée aux mots de la religion. Permettez-moi de faire de très brèves présentations, mais tout de même, pour rappeler donc Claude Agege qui est plongé dans le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, mais je pense qu'il va nous entendre tout de même, pour rappeler Claude Agege que vous êtes donc linguiste, professeur au Collège de France, lauréat de la médaille d'or du CNRS, auteur de très nombreux livres, que je ne vais bien sûr pas tous citer, mais quelques titres tout de même. Le français et les siècles en 1987, Le souffle de la langue en 1992, Halte à la mort des langues en 2000, Le dictionnaire amoureux des langues en 2009, tous sont parus aux éditions Odile Jacob. Et puis votre dernier livre, Les religions, la parole et la violence, qui est paru donc chez le même éditeur cette année. Éric Emmanuel Schmitt, dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste également, traduit en de très nombreuses langues, une quarantaine de langues, et joué dans tout autant de pays. Vous êtes membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Et puis, vous avez été élu en janvier 2016 à l'Académie Goncourt. Votre dernier livre s'intitule « La vengeance du pardon ». Il est paru aux éditions Albin Michel en 2017. Et puis, il y a ce livre que tient Claude Agege, « L'homme qui voyait à travers les visages », et qui est également un livre qui est en lien avec le sujet que nous allons aborder. Alors, Claude Agege, j'ai envie de commencer par vous, parce que vous le dites dans votre livre. Vous êtes non seulement habité depuis l'enfance par cette passion des langues qui vous a conduit à devenir linguiste, mais également envahi depuis très longtemps par une question. D'où vient le besoin des humains de croire en Dieu, d'une part, et puis également pourquoi l'histoire des religions est-elle faite de tant de violence, alors que bien sûr les religions auraient dû avoir pour vocation de réunir l'humanité. Et c'est cette question essentielle qui est l'objet donc de votre dernier livre. Alors la première question peut-être serait de savoir comment le fait d'aborder cette question des religions par le biais du langage permet de l'éclairer et comment il permet peut-être de mieux cerner la complexité de ce sujet qui nous concerne tous, qui concerne toute l'humanité au fond.
Eh bien, d'une façon très simple, le vecteur des religions, aussi bien sous forme écrite que sous forme orale, ce sont les langues. Le sanskrit pour le Veda, la grande religion de l'Inde. J'ouvre ici une parenthèse que je vais refermer. Dans mon livre, je parle du brahmanisme, de l'hindouisme, du confucianisme, du taoïsme, du shintoïsme, et je constate, avec regret, sans m'en glorifier le moins du monde, que je suis très isolé, car la quasi-totalité des auteurs qui s'intéressent aux religions en Occident ne traitent jamais autre chose que les trois monothéismes. Comme si les religions, souvent dira-t-on des théories ou des philosophies, mais quelquefois aussi elles ont un petit bout de transcendance, bémolisé, mais non inexistant, n'existait pas. Et moi, évidemment, j'en parle moins longuement, parce qu'il y a moins d'informations, mais j'en parle. Je ferme cette parenthèse. Donc, aussi bien pour les grands textes des religions que je viens de mentionner, celles de l'Extrême-Orient et de l'Orient plus proche, que pour les trois grandes religions monothéistes de l'Occident, la raison pour laquelle un linguiste, d'une façon qui peut paraître bizarre, parce que jusqu'ici je n'avais écrit que sur le langage et les langues, peut s'y intéresser, c'est que leurs vecteurs, ce qui les exprime, ce sont des langues. Soit des discours oraux, comme celui de Yoshua de Nazareth, que je n'appelle jamais autrement que Yoshua de Nazareth, j'appelle à la juive, comme l'appelaient ses contemporains, car je ne vois pas pourquoi je devrais l'appeler différemment, de Yoshua de Nazareth, j'espère que vous voyez de qui il s'agit. Soit Moïse, soit le prophète Mohammed, dans tous ces cas, il s'agit d'une prédication orale. Et puis, pour diverses raisons, qui ne sont pas toujours claires, qui ne sont pas toujours diaphanes, car on pourrait très bien considérer que les transmissions des traditions orales ont autant de vivacité, de force et de capacité de pénétration que les traces écrites qu'on en donne, pour des raisons donc liées à une sorte de sacralisation du livre ou de l'écrit, eh bien, dans le cas des trois grandes religions monothéistes, comme dans le cas des grandes croyances de l'Extrême-Orient que je viens de mentionner furtivement, eh bien, on a voulu confier à l'écriture ces différentes attitudes vis-à-vis du monde, de la transcendance entre gros guillemets, et des réponses aux interrogations des gens sur l'inexplicable, sur l'irrationnel ou sur l'existence du mal. Je viens de citer, soit dit en passant, trois des clés qui expliquent le besoin de croire à quelque chose qui surplombe notre existence quotidienne. Ça passe toujours par le langage, c'est-à-dire par des langues. Ces langues sont l'hébreu, le latin, le grec, pour l'Occident, l'arabe, pour le Proche-Orient, pour l'islam, le hindi, pour ou sa forme ancienne, le sanskrit védique, pour le brahmanisme, l'hindouisme, le chinois confucéen, c'est-à-dire une forme aujourd'hui hors d'usage, puisqu'on parle aujourd'hui en Chine ce qu'on appelle Putonghua, c'est-à-dire Peixinghua, la langue de Pékin pour l'essentiel, qui est devenue la langue véhiculaire générale de toute la Chine, y compris du cantonais et du shanghaïen, les langues des grandes villes autres que Pékin plus au sud, et le japonais pour le shintoïsme, etc. Donc ce sont les langues qui sont les vectrices de ces religions, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on s'intéresse aux religions, on est amené à s'intéresser aux langues qui les portent. Ai-je répondu à votre question ?
Tout à fait. C'est absolument parfait. Éric Emmanuel Schmitt, vous vous intéressez à la question du religieux depuis extrêmement longtemps. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais j'aurais pu le citer. Vous aviez publié en 2000 l'Évangile selon Pilate. Et puis, il y a eu ce grand cycle de l'invisible, au sein duquel, d'ailleurs, vous dépassiez les trois monothéismes. Claude Agege, à l'instant, regrettait que l'on limite en général son intérêt aux trois grands monothéismes. Ça n'est pas du tout votre cas, puisque vous abordez d'autres religions que ces trois-là.
Oui, je m'étais intéressé. C'est pas fini d'ailleurs le cycle de l'invisible, parce qu'il y a des spiritualités que je n'ai pas traitées, l'hindouisme par exemple. Mais dans ce cycle de récits, je racontais des histoires humaines, des aventures humaines, mais il y avait toujours le cadre d'une spiritualité qui inspirait un des personnages. Donc j'avais parlé du bouddhisme tibétain avec Milarepa, j'avais parlé du soufisme, de la mystique soufie, dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui va d'ailleurs se jouer, parce que j'ai vu ma tête sur les affiches en venant ici, qui va se jouer, que je vais venir jouer trois soirs de suite autour du 25 septembre. Après, Oscar et la Dame Rose avaient rapport au christianisme. Ensuite, le sumo qui ne pouvait pas grossir avait rapport au bouddhisme zen, et puis Confucius avec les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus, et le judaïsme avec l'enfant de Noé. Voilà. Donc j'avais commencé mon trajet à l'intérieur des spiritualités. Le but, j'ai appelé ça le cycle de l'invisible. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'expérience du monde ne nous délivre pas le sens. Nous voyons des objets, nous voyons des êtres, nous vivons des événements, mais quel est le sens de ces événements ? Quel est le sens d'une naissance, le sens d'une mort, le sens d'un amour, d'un désamour, d'une maladie ? L'homme ne peut pas vivre sans donner du sens à ce qui lui arrive. Et dans les grands fournisseurs de sens, il y a bien évidemment les religions. Et donc je m'étais intéressé à faire un voyage chez ces grands fournisseurs de sens que sont les religions. Un voyage qui était un voyage humaniste, pas du tout un voyage religieux. C'est-à-dire que je m'intéresse aux religions comme on peut s'intéresser à des trésors d'humanité, et voir ce qui peut faire régler la vie des gens ou faire battre le cœur des gens. Donc c'était un voyage non religieux à travers les religions. Et ça, c'est un point de vue que je revendique. Ça correspond, cette démarche, exactement à ce que décrit Claude Agege, c'est-à-dire. Oui. Tout à fait. C'est ce que vous avez fait dans votre dernier livre, qui est passionnant d'un bout à l'autre et d'un intérêt plus que soutenu. Donc je vous le conseille vraiment. Alors après, on va aborder d'autres questions, mais j'ai aussi cette une espèce de curiosité encyclopédique qui, chez moi, s'exprime non pas à travers l'essai comme Claude Agege, mais à travers la fiction.
Vous citiez, Claude Agege, tout à l'heure, le sanskrit ou le latin, qui sont des langues auxquelles on a voué une sorte de culte, qui étaient donc des langues sacrées. Et puis vous abordez également la question de l'oralité, de ces traditions dans lesquelles la parole elle est sacrée. Et d'ailleurs, la parole des prophètes est sacrée, puisque les prophètes entendent la parole de Dieu. Donc il y a cette dimension de l'oralité également qui est importante dans votre approche du sujet.
Cette question me plaît, merci de la poser, car en effet, ça a une très grande importance, quand ce ne serait que pour la raison que, autant que je sache, mais ma connaissance est limitée, c'est celle d'un modeste, d'un homme qui ne domine que les lectures qu'il attend de faire, autant que je sache, les prédicateurs des grandes religions, aussi bien en Occident qu'en Orient, proche et lointain, ont eu une attitude au début méfiante à l'égard de l'écrit, car ils considéraient que la gestuelle de l'oral, l'intonation, l'ensemble des ingrédients vivants qui constituent le tissu du dialogue suffisaient pour convaincre. Et évidemment, ils se préoccupaient moins de la transmission à travers les âges que l'on considère comme plus facile à effectuer par l'écrit, ce qui n'est pas entièrement vrai. Je suis aussi ethnologue, un peu comme linguiste de terrain. Très fréquemment, quand je me rends dans des tribus qui vivent isolées, dans la brousse amazonienne au Brésil ou au pied de l'Himalaya, en Assam ou en Afrique ou dans d'autres pays du monde où je suis un linguiste de terrain qui va étudier les langues sur place, j'interroge les traditions orales et mes informateurs, les hommes et les femmes, en général des gens plutôt âgés, hélas c'est pas toujours des belles filles, enfin quand c'est des belles filles ce sont d'autres usages, mais enfin bon, ce sont des grands-mères et des grands-pères, bon, et transmettent une tradition orale à laquelle ils croient, car ce sont des terres de l'oralité. Autrefois, les gens les appelaient de façon privative et un petit peu méprisante implicitement des cultures ou des langues sans écriture. Moi, je préfère une formulation positive, je dis des cultures ou des langues de l'oralité, et non pas sans écriture, qui serait une référence à quelque chose dont on déplore le manque. Bon. Alors donc, la transmission orale est quelque chose de capital. Et puis alors, en ce qui me concerne, c'est encore plus vrai, parce que je suis, depuis l'enfance, un fou des langues. J'ai toujours été habité par une passion dévorante des langues. J'ai toujours adoré parler des langues. Et évidemment, passant ma vie dans les langues et dans une relation passionnelle avec elles, lorsque je vais en Chine, invité par des collègues, je fais ma conférence en chinois, bien entendu. Quand je vais au Japon, je fais mes conférences en japonais. Quand je vais dans le monde arabe, je fais mes conférences en arabe. Il y a des cas où j'arrive pas. Par exemple, récemment, j'ai été invité en Estonie. L'estonien, comme vous savez, est une langue apparentée au finlandais. Je ne peux pas faire de conférence en estonien, mais les gens de Tallinn comprennent très bien ce que disent les gens de Helsinki, c'est-à-dire de l'autre côté du golfe de Baltique, ce que disent les Finlandais. J'ai donc fait mes conférences en finnois parce que j'étais incapable de le faire en estonien. Bon, ce qui veut dire que dans des cas particuliers comme cela, je dois, à grand regret, c'est un crève-cœur, renoncer à parler dans la langue locale. Soit dit par parenthèse, j'ouvre ici une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, mais je le dis au public parce que c'est quelque chose qu'il faut que les gens entendent. Je suis un ennemi absolu de l'anglais. Je déteste l'anglais. Pourquoi ? Mais parce que l'anglais est le responsable de la mort des langues. Évidemment, je me sers de l'anglais quand je suis en pays anglophone. Pourquoi ? Parce que I have no choice. Évidemment, quand je suis en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada britannique, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou dans d'autres pays anglophones, je me sers de l'anglais parce que, encore une fois, for lack of choice, par manque de choix. Mais dans les autres cas, évidemment, je considère, à la fois par courtoisie, par amour pour les gens et par nécessité de transmission, qu'il est exclu de parler en anglais. Ferme cette parenthèse. D'ailleurs, l'anglais, puisqu'on parle de ça, n'est en rien, n'a jamais été en rien, une langue de transmission d'une prédication religieuse. Aucune des grandes prédications religieuses ne s'est faite en anglais, d'abord parce que cette langue est détestable, ensuite parce que, à l'époque où ça se faisait, l'anglais était, sous sa forme ancienne, du vieil anglais ou du germanique d'origine scandinave, qui devait donner une des sources de l'anglais britannique contemporain, une langue qui ne servait pas à la prédication religieuse. Quelles étaient les langues qui servaient à cela ? C'était le latin pour l'essentiel, et dans une moindre mesure le grec. Bon, voilà les raisons pour lesquelles la transmission orale, l'oralité, encore une fois, pour moi, à la fois dans ma propre biographie, dans mon histoire personnelle de fou des langues, habité. Je suis sur ce plan vraiment un homme habité. La passion des langues est quelque chose chez moi d'extrêmement fort. Naturellement, celle coïncide aussi avec quelqu'un qui les porte et qui est un miracle de beauté. Alors là, c'est la mort, évidemment. La passion des langues, quelquefois, peut par chance coïncider avec une vectrice qui les représente avec une infinie grâce. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Bon. Et donc voilà, l'oralité est au centre même de cette idée de transmission des religions. Et j'ajoute quelque chose
je vous en prie.
Bien que vous ne m'ayez pas interrogé, mais ce cher Éric Emmanuel en a fait allusion, et par conséquent, je me permets de répondre à une question que vous n'avez pas posée.
Mais à laquelle j'ai fortement pensé, vous avez lu dans mes pensées.
Éric Emmanuel a dit quelque chose, ça n'a plus rien à voir avec la thématique de l'oralité, enfin, aussi, ça a des liens un peu ténus, mais pas directs, à quoi j'aimerais réagir, parce que ça m'intéresse beaucoup, et j'en parle dans mon livre, évidemment, à savoir la quête de sens. N'est-ce pas, cher Éric Emmanuel, vous avez parlé de ça. Et je dirais, en ce qui me concerne, que la quête de sens, alors là, je lance le débat sur une travée un peu nouvelle par rapport à ce que venons de dire, et qui peut ouvrir des horizons très vastes, parce que le sujet est capital et passionnant. La quête de sens est capitale. Nous sommes tous habités par le besoin de trouver un sens à notre vie, à nos actions, au monde. Et je dois dire, en ce qui me concerne, que je ne vois pas pourquoi elle devrait passer par une transcendance. Je ne vois absolument pas pourquoi. Les religions, naturellement, en ont fait leur beurre, leur capital, parce qu'elles y avaient le plus grand intérêt. Mais on peut parfaitement concevoir une quête de sens qui trouve sa satisfaction, ou en tout cas, qui trouve quelques réponses sporadiques et isolées, jamais complètes, jamais constituant un tout articulé, à des interrogations sur ce qu'est l'univers, ce qu'est son origine, et, je dois dire, sans tomber dans facilité d'un scientisme désuet qui était celui de la fin du XIXe siècle, que le langage des savants, le langage de la recherche scientifique, est la meilleure réponse possible, contrairement aux religions hésitantes, pas décisives, et qui ne prétend pas tout expliquer, une différence capitale avec les religions, aux interrogations que nous avons sur notre origine, sur notre identité, sur l'existence du mal, qui est évidemment intolérable, et tout cela est une façon de satisfaire, au moins partiellement, la quête du sens, sans le moins du monde que l'on passe par une transcendance, et moins encore par une religion révélée.
Éric Emmanuel Schmitt, sans vous priver, bien sûr, de revenir sur cette question de la transcendance, j'avais quand même envie de retourner à la question de l'oralité, parce que j'imagine que cette idée que la parole proférée puisse avoir un pouvoir et, dans certaines traditions, une autorité religieuse, pour l'homme de théâtre que vous êtes, ça n'est pas dénué d'intérêt.
Oui, non, mais de toute façon, quand on est écrivain, on entend les phrases, et on écrit parce qu'on les entend, je veux dire. Tous les écrivains sont d'abord des écrivains oraux. Moi, j'appelle mon bureau mon écoutoir. Flaubert disait mon gueuloir, parce qu'il disait ses textes. Moi, je me concentre et j'essaye d'entendre pour que la langue devienne musicale. Non, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au début de toutes les spiritualités, il y a une transmission orale. Et j'ai l'impression que la plupart du temps, l'écrit arrive quand le pouvoir arrive. Quand tout d'un coup, on veut s'emparer d'une tradition, d'une spiritualité vivante, pour canoniser, c'est le cas de le dire, enfin créer un corpus canonique, et à partir de là, exercer un pouvoir sur une communauté, se distinguer d'autres communautés. Donc en fait, l'oralité a à voir avec l'échange. L'oralité est vivante. Je pense que dans l'oralité, il peut y avoir une remise en question. Le texte, l'écrit, a la volonté de figer et du coup de commander une politique. C'est vrai dans la plupart des religions. En tout cas, dans les monothéismes, on peut lire ça.
Oui, alors il y a un moment effectivement où les religions ne se contentent pas de répondre à des interrogations, parce qu'au départ, c'est ça.
Pardonnez-moi, laissez-moi apporter un appui complet à ce que vient de
dire
ce cher Éric Emmanuel, parce que il est absolument vrai que l'intervention ou l'avènement de l'écrit est lié au pouvoir politique. C'est absolument vrai. Je citerai un exemple que l'on produit moins souvent parce qu'il n'appartient pas à nos latitudes. L'invention des caractères chinois, autant que nous sachions, d'après les investigations qui sont faites à l'origine sur écailles de tortue, et puis ensuite ça s'est stylisé de plus en plus jusqu'à l'époque contemporaine, elle est liée exactement à la besoin pour les empereurs, au besoin pour les empereurs de faire parvenir leurs ordres, leurs édits aux provinces les plus lointaines de l'Empire. Et par conséquent, ça ne pouvait se faire que sous forme écrite. Pour prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, qui appartient à un tout autre lieu, l'écriture aztèque les hiéroglyphes, car sans son, ce sont des hiéroglyphes. Hiéroglyphe veut dire, c'est un terme grec, inscription sacrée. Hieros, glyphos. Eh bien, les Aztèques, qui ont été découverts par ces affreux salauds de conquistadores espagnols qui ont taillé en pièces les grands empires de l'Amérique latine en les massacrant, ça a été une horreur. On le sait moins, on le dit moins aujourd'hui, mais l'hispanisation de l'Amérique latine par Cortés pour le Mexique et par Pizarro pour le Pérou a été un massacre absolument gigantesque. Enfin bon, je ferme cette parenthèse qui nous emmènerait sur de toute autre voie. Quoi qu'il en soit, là encore, avant l'arrivée des Espagnols, les masses aztèques, les masses nahuatl, pour leur donner leur nom local, étaient illettrés et n'éprouvaient pas besoin de lire. La lecture et l'écriture, par conséquent, qui en est corollaire, n'avaient de sens que par rapport à un gouvernement où l'on transcrivait les ordres à exécuter. Donc il est tout à fait vrai, et vous avez raison de l'avoir rappelé, que l'écriture a un lien direct avec le pouvoir politique.
Et cette question du pouvoir politique, peut-être nous conduit-elle vers le troisième terme de votre titre, qui est celui de la violence. Parce que vous le soulignez d'ailleurs dans votre livre, certaines religions, en tout cas en Asie, sont moins associées à la violence que d'autres. Alors, est-ce le fait de la séparation du politique et du religieux ?
Je ne sais pas si j'irai dans ce sens. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais c'est parce que les contenus de ces religions sont en général plus pacifiques ou ne se préoccupent pas de rivaliser avec d'autres religions. C'est une des raisons pour lesquelles, même si on se défend des lieux communs très répandus sur le fait que les Asiatiques sont des gens plus paisibles, que les Occidentaux sont des gens violents, même si on se défend de ces lieux communs, très fréquemment infirmés par les réalités, il reste vrai néanmoins que les religions de l'Occident, l'islam très fortement et sous nos propres yeux plus que jamais, mais déjà les origines, et tout autant quand on pense aux croisades, les religions qui sont liées au christianisme et qui sont tout autour de la sphère d'influence du pouvoir politique qu'est la papauté, c'est un pouvoir temporel avec des territoires, se fondent sur l'idée que, au fond, que j'ai entendu très fréquemment sur les terrains où j'ai traîné mes guêtres pour étudier les langues tribales et régionales dans le monde entier, les missionnaires avec lesquels j'entretiens de très bonnes relations, quand souvent ce sont les seuls Européens à 300 km à la ronde, ils sont tout heureux de rencontrer un chercheur qui vient d'ailleurs, eh bien, j'ai souvent dit à ses amis, écoute, toi, tu es ici parce que, implicitement, tu considères que ce que tu apportes pour évangéliser les gens, pour les christianiser, est supérieur à ce qui est en place. Tu considères donc que tu le reconnaisses ou non, que tu le dises ou non, en général tu éviteras de le dire explicitement bien sûr, que les religions tribales, les croyances des populations que tu viens évangéliser ne valent pas le christianisme. Et en ce qui concerne le judaïsme, c'est beaucoup moins vrai parce qu'à partir du moment où l'alliance entre la politique et la religion, je veux dire, c'est bien là votre question, c'est beaucoup moins vrai parce que à partir du moment où les juifs ont été acculés par la propagande chrétienne et par, à partir de 313, c'est l'édit de Constantin qui donne au christianisme une officialité dans l'Empire romain. C'est une date capitale, évidemment. À partir du moment où le christianisme devient officiel, il est clair que les compagnons, les descendants des compagnons du Joshua de Nazareth, qui n'ont pas voulu considérer que cette religion nouvelle abolissait la foi ancienne, c'est-à-dire les juifs et leurs descendants contemporains, ont été amenés à être la cible des persécutions féroces, violentes, des massacres énormes du christianisme et par la suite de l'islam d'ailleurs pour les mêmes raisons. Mais lorsque les juifs étaient ou bien seuls ou en tout cas dominants, ils étaient eux aussi d'une façon autant que l'on sache moins violente, plus fondée sur la persuasion, ils étaient eux aussi dans un travail de prosélytisme. On cite des cas de conversion au judaïsme à la cour de Tibère, à la cour d'Auguste. La favorite principale comment s'appelle cet affreux empereur qui a assassiné sa mère Agrippine de Néron, était juive, une affranchie qui s'est convertie au judaïsme. Autrement dit, et puis Flavius Joseph, que l'on connaît, le célèbre historien juif, témoigne de cette époque. Autrement dit, le judaïsme lui-même, qui aujourd'hui n'a pas du tout ce profil, a aussi été, avant que le christianisme n'apparaisse, et apparaissant comme principal, évidemment, est devenu persécuteur vis-à-vis de la minorité juive non convertie, le judaïsme lui-même a aussi été fondé sur cette idée de domination religieuse liée aux politiques, ce qui veut dire que le lien entre le politique et le religieux, il est fondé, au moins pour les trois grands monothéismes de l'Occident, sur l'idée que le pouvoir religieux est étroitement lié à la domination politique et sociale, ce qui n'est pas le cas du tout dans les grandes religions et croyances de l'Extrême-Orient.
Ben, j'irai dans ce sens avec... tout à fait. Alors, je pense qu'il y a une différence aussi, c'est la présence de la... Il y a le monothéisme. Il semblerait que le monothéisme, effectivement, soit violent, et on va revenir dessus. Mais il y a aussi la présence de la transcendance. Dans les religions, la plupart des religions asiatiques, il n'y a pas cette présence de la transcendance, d'un dieu qui est au-dessus. C'est-à-dire, on dit parfois aisément, pour résumer ça, c'est une conception du monde horizontale, alors que dans les monothéismes de la transcendance, on a une conception du monde verticale. On rend compte au Dieu transcendant. Hein. Et donc, on a l'idéal de la vérité, puisqu'on est censé être observé, vu, entendu par Dieu. D'où l'obsession de la vérité qu'il y a dans la civilisation monothéiste ou occidentale, qui n'est pas du tout une obsession qui appartient à certaines traditions asiatiques, puisque ce qui compte, c'est l'harmonie du groupe, c'est l'horizon, hein, c'est-à-dire la communauté. Et donc, si pour la communauté, le bien de la communauté, il ne faut pas dire la vérité, on ne dit pas la vérité. Hein, c'est-à-dire que l'harmonie compte plus que le vrai. Ce qui est complètement défendable aussi. Mais donc, effectivement, si l'harmonie compte plus que le vrai, on n'est pas dans un conflit par rapport à la vérité. Il y a une autre chose. Il me semble aussi que, alors que les monothéismes sont la promotion, devraient être la promotion d'un même Dieu, puisqu'il n'y en a qu'un, leur histoire même est une histoire de rivalité et de tentative d'illumination successive. Puisque effectivement, le premier, c'est le judaïsme, mais qui est malgré tout réservé à un peuple élu. Et puis, le christianisme va se donner comme l'aboutissement du judaïsme, puisque le christianisme reconnaît en Dieu le Messie que le juif, lui, continue à attendre. Parce que ce qui compte pour le juif, c'est pas le Messie, c'est l'attente du Messie. Donc, faut bien le comprendre. Mais à partir de là, il y a une rivalité, c'est-à-dire que les chrétiens ne supportent pas pendant plusieurs siècles que les juifs continuent à être juifs alors que le Messie est arrivé. Donc, à l'intérieur du monothéisme, il y a un conflit. Et le troisième élément du conflit, ça va être l'arrivée de l'islam et du Coran, qui aussi... dans sa prétention à la vérité, comme les autres, dans son impérialisme de la vérité, va condamner le chrétien et le juif de n'être pas musulmans. Donc, en fait, l'histoire des monothéismes est une histoire de rivalité. Donc, je dirais que la violence est à l'intérieur même de l'histoire du monothéisme.
Non seulement la violence est à l'intérieur même, mais vous le soulignez dans votre livre, Claude Agege, toutes les religions sont suscitées par des interrogations, par des angoisses des hommes face à l'inexpliqué et face à la mort, hein, notamment. Et face à cela, les religions produisent des explications, elles produisent un récit, elles emploient des mots qui sont des mots qui devraient rassurer les hommes face à l'inexpliqué. Mais il semble que ces mots-là ne soient pas suffisants. Ne soit pas suffisant, ne rassure pas suffisamment l'humanité, puisque on se retrouve face aux situations de violence qu'on vient d'évoquer. Alors, est-ce qu'il y a dans le langage utilisé par les religions quelque chose qui ne parvient pas à apaiser les inquiétudes fondamentales ?
Je dirais tout de même que, dans une large mesure, les religions les apaisent, parce que si elles ne les apaisaient pas, il n'y aurait pas tellement de gens qui sont religieux. Donc, elle n'apaise peut-être pas les certitudes des gens qui ont un tempérament beaucoup plus sceptique ou pyrrhonien, mais les masses qui se convertissent aux religions, en général, y trouvent un confort, un réconfort et une assurance que quelque chose allège leur souffrance, ou surtout, elles trouvent un apaisement sous la forme d'une gigantesque illusion qui est la croyance dans la vie éternelle. Il est évident que les gens qui souffrent ici-bas et qui, à qui on dit qu'il y aura une rétribution des méchants et des bons, et enfin tout ce qu'on leur raconte, que les religions monothéistes leur racontent, sur la justice qui ne règne pas sur terre, mais qui régnera dans l'au-delà, tout cela est de nature à rassurer les gens. Bon, néanmoins, ce qui reste vrai tout de même, et que vous soulignez, c'est que ça ne suffit pas à apaiser les angoisses. Alors, ceux qui, au fond, devraient être les plus angoissés, mais qui ne le sont pas toujours, ce sont les athées. Pourquoi ? Parce que pour être athée, pour ne croire absolument en aucune transcendance, pour ne croire pas du tout en Dieu, il faut un très grand courage. Il faut un singulier courage. On entend très souvent, d'ailleurs, enfin dans des conversations d'un certain niveau, déjà pas des conversations du café du coin, mais dans des conversations qui ont une certaine tenue, on entend des religieux dire à des athées déclarés ou qui se présentent comme tels, mais comment fais-tu pour vivre, pour continuer à vivre, alors que tu ne trouves pas de réponse ? Et l'autre va répondre, eh bien, contrairement à toi, ça me demande du courage et ça nourrit mon anxiété, je n'ai pas de réponse toute prête. Les religions, singulièrement celles de l'Occident, les trois grands monothéismes, mais dans une certaine mesure aussi celles de l'Orient et de l'Orient lointain et proche, apportent des réponses aux interrogations sur notre destin, sur le sens, pour reprendre le mot employé à l'instant, de notre destinée, et surtout sur ce qui est le pire, au fond, ce qui révolte le plus et qui fait la principale raison de l'adhésion aux religions, qui est l'existence du mal. L'existence du mal est évidemment intolérable, mais on pourrait soutenir que l'existence du mal est inscrite dans notre existence même, qu'elle fait partie de notre biologie, qu'elle est quelque chose qui est l'autre face du bien, entre gros guillemets, bien entendu, et que par conséquent, on n'a pas vraiment besoin des religions pour l'exorciser. Mais enfin, ça apporte un certain nombre d'éléments rassurants à tous ceux qui en ont besoin pour vivre. Et encore une fois, ceux qui ne croient en rien de tout cela, il leur faut un certain courage, et il leur faut également une certaine croyance dans les progrès d'esprit humain, dans la capacité d'esprit humain à trouver les clés de l'univers. Il y a, je me permets de citer quelque chose dont je parle à la fin de mon livre, il y a à l'heure actuelle une forme outrée de ce que je viens de dire, la forme que certains jugeront caricaturale, que d'autres considéreront comme naturelle, et qui est le fameux transhumanisme. Je ne sais pas si vous avez intention d'en parler, mais j'en dis quelques mots. Il existe aujourd'hui une recherche, à l'origine essentiellement californienne, il faut dire, très 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 localisée dans l'espace, dans des grandes universités comme Stanford, Berkeley et UCLA, University of California, Los Angeles, et d'autres grandes universités californiennes, qui se concentrent sur l'idée suivante. On peut allonger la vie humaine, peut-être même exorciser la mort, peut-être même à raison même des découvertes de plus en plus importantes que font les savants, la recherche scientifique en biologie, remettre en cause la mortalité des êtres humains. Et toutes ces recherches qui peuvent paraître complètement folles, complètement aberrantes, elles nourrissent naturellement l'espérance de ceux qui considèrent que notre finitude, notre limitation, l'existence de la mort et tout cela, sont des sujets de détresse, d'angoisse, que peut-être la recherche humaine peut réduire à force d'espoir et du temps. Et même, comme vous savez sans doute, certains qui meurent d'un cancer qui n'ont pas pu être guéris ou d'une autre pathologie très grave que pour l'instant, malheureusement, la science humaine, la science médicale est incapable de résoudre, eh bien, se font cryogéniser avec l'espoir que leur corps glacial, dans 30, 40 ou 50 décennies ou avant, quand on aura découvert le remède à leur cancer qui les tue pour le moment, leur permettra de ressusciter. Bon, tout cela est fondé sur quoi ? Ben, sur une idée qui nous rapproche singulièrement de notre thématique elle-même. Ce à quoi répondent les religions, c'est le refus de la mort. Les êtres humains n'acceptent pas la mort. Enfin, certains l'acceptent, la majorité n'accepte pas. C'est évidemment le pain béni, si j'ose dire, pour les religions, parce qu'elles apportent une réponse en racontant aux gens qu'il n'y a pas vraiment de mort, que tu vas revivre, tu vas rencontrer les gens que tu aimes dans l'au-delà, enfin... Et d'autres choses du même type, je ne vais pas polémiquer, et trop montrer combien ça m'énerve, mais enfin bon, je ferme cette parenthèse. Mais enfin, on leur raconte ça, on apaise leurs anxiétés, et évidemment, le transhumanisme que certains des religieux, les représentants de différents cultes, que ce soit un ministère catholique, protestant, orthodoxe ou d'autres religions, les considèrent comme une pure folie. Mais le transhumanisme, comme les religions, il répond à l'angoisse de la mort et à son refus. Car c'est ça notre caractéristique. Nous acceptons de vivre, nous aimons vivre aussi longtemps que possible et nous refusons la mort. Et les religions, leur terreau, leur origine, c'est la réponse qu'elles apportent, qu'elles prétendent apporter au refus de la mort. Évidemment, je préviens dès maintenant une objection qui pourrait naître chez quelqu'un d'entre vous, dans l'auditoire, sur le fait qu'il y a des gens qui la demandent avec insistance, etc. Je ne parle pas naturellement des pauvres malheureux et malheureuses qui souffrent le martyre, qui ont une vie, aussi bien sur le plan physique que sur le plan moral, déception d'un grand amour, incapacité à réaliser ses rêves, etc., et qui demandent la mort. Il reste une minorité, heureusement pour nous. Parce que si tout le monde était là, l'espèce ne se reproduirait pas. Bon. Mais la majorité, les masses, en général, en dehors de ces cas particuliers, que je mentionne pour être complet, refusent la mort, la refusent radicalement, et c'est là l'origine des religions.
Bien, il y a tout un parcours à reprendre.
Je suis censé être un petit peu contradicteur. moi, je pense que l'origine des problèmes, c'est la confusion entre le besoin de savoir et c'est la confusion entre le besoin de savoir et le fait de savoir. Et je crois que c'est ça qui est à l'origine de la plupart de nos maux. Effectivement, l'homme est un animal qui a besoin de savoir, besoin de donner du sens aux choses. Alors, les idéologies, les religions, les livres révélés lui proposent des significations. Le problème commence quand les êtres humains prennent cette proposition de sens pour la vérité. Or, ce sont juste des propositions de sens. Au fond, et à ce moment-là, je dirais que l'athéisme lui-même est une proposition de sens. C'est ce que disait Diderot, on ne peut pas s'empêcher de métaphysiquer, hein, c'est-à-dire de faire de la métaphysique, même si on dit que tout est absurde. Hein, car l'absurde, c'est une proposition aussi philosophique pour expliquer le réel, pour dire qu'il n'y a rien à comprendre. Mais c'est une proposition aussi. Donc en fait, nous sommes en phase de proposition de sens. Et c'est pour ça que pour moi, ça fait qu'il n'y a pas une proposition qui soit meilleure qu'une autre. Puisqu'au fond, aucune de ces propositions n'est vraiment dans le vrai. On ne va pas dire que le christianisme est plus vrai que le judaïsme, plus vrai que le confucianisme, mais on ne va pas dire non plus que Diderot c'est plus vrai que Kierkegaard ou que Hegel ou que Kant. Ce sont des propositions de sens. Ce sont des fictions explicatives très très bien articulées lorsqu'il s'agit des grands philosophes. Particulier rationnellement quand il s'agit de révélations ou articulé avec des axes de valeur quand il s'agit de sagesse ou de spiritualité. Donc pour moi, ce qui me paraît très très important, c'est justement de ne pas prendre les propositions de sens pour des vérités, mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas des vérités qu'elles sont nulles. Voilà, une proposition de sens peut apporter une aide dans la vie, un comportement, une morale, une déontologie, une façon de se tourner vers les autres. Une proposition de sens peut permettre de lutter contre un égoïsme naturel, c'est ce qui est au cœur de toutes les religions. Lutter contre l'égoïsme pour aller vers plus d'altruisme et essayer de développer l'amour ou la compassion. Ces propositions de sens, elles ne sont pas la vérité, mais elles ont de la valeur. Et donc, ça me paraît très important parce que ce n'est pas d'évaluer... Moi, je ne serais pas d'accord pour dévaluer totalement la croyance. Parce que vous voyez, moi, si vous me posez la question est-ce que Dieu existe ? Je vous réponds, je ne sais pas, bien sûr. Le philosophe que je suis de formation répond, je ne sais pas. Mais j'ajoute, mais je crois que oui. Parce que j'ai eu la chance de vivre une expérience pascalienne de révélation. Si vous posez la même question à mon ami André Comte-Sponville, il va vous répondre « Est-ce que Dieu existe ?» Je ne sais pas, mais je crois que non. Et puis, vous avez le troisième qui va vous répondre « Je ne sais pas, je m'en fous ». Les trois sont honnêtes. Les trois sont honnêtes, c'est-à-dire les trois sont agnostiques, c'est-à-dire les trois disent « je ne sais pas ». Ça ne relève pas du savoir. Et c'est sûr que Dieu ne se trouve pas au bout d'un raisonnement mathématique, au bout d'un raisonnement philosophique, sous la lentille d'un télescope ou sous la lentille d'un microscope. Dieu ne se trouve pas là. Dieu n'est pas un objet de savoir, définitivement. Il n'y aura jamais de preuve scientifique de Dieu. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Il y a la place pour d'autres appréhensions, l'appréhension mystique, etc. Bon. Après, on peut critiquer évidemment toutes ces choses et dire les interpréter autrement, mais ouvrons au moins cette porte des possibles. Donc voilà, moi ce qui me paraît très, très important, c'est de dire, d'être honnête et de dire je ne sais pas, et après de dire mais je crois que oui, je crois que non, et je m'en moque. Donc il y a l'agnostique croyant, l'agnostique athée, l'agnostique indifférent. Et l'indifférence n'est pas une preuve de bêtise. Hein. L'indifférence, c'est simplement que la vie est suffisamment pleine de sensualité, de sève, de désir pour remplir l'existence sans qu'on s'abîme dans des considérations métaphysiques. C'est infiniment respectable aussi d'être un agnostique indifférent. Hein. Je ne suis pas du tout en train de critiquer ça, simplement de le considérer. Et donc, on est tous frères en ignorance. Au moins, ça, c'est certain. Voilà. Et après, on a des positionnements spirituels intérieurs différents. Et je pense qu'au nom de ce qu'on a de commun, on doit respecter les différences. C'est-à-dire, au nom de ce qu'on a de commun, c'est-à-dire l'ignorance, on doit respecter les choix qui nous rendent différents, les choix de chacun. Donc, j'aurais pas un regard... Je ne condamnerai pas les propositions religieuses, si vous voulez. Je dis qu'elles n'ont rien à voir avec la rationalité. Ça, c'est certain. Mais je ne les condamnerai pas parce que on ne peut pas échapper à l'hypothèse. On ne peut pas échapper au choix. On ne peut pas échapper à des décisions quant à son tissu spirituel. Et quand je dis tissu spirituel, je parle aussi de la spiritualité athée ou d'une spiritualité philosophique. Parce qu'on a tous une vie spirituelle, qu'elle soit inspirée par une religion, une révélation ou pas. Donc, voilà, ça me paraît très, très important de distinguer croire et savoir. Et le problème de la violence depuis des millénaires, c'est parce qu'on confond croire et savoir. Aujourd'hui, les gens qui se font exploser et qui nous tuent en criant le nom de Dieu sont des gens qui confondent croire et savoir. Hein. La conscience de l'ignorance rend ouvert et tolérant. L'ignorance de son ignorance crée le fanatique. Le fanatisme est une surcompensation du doute. Celui qui refuse de douter fonce dans sa croyance et confond croire et savoir, et croit, et prend sa croyance pour une vérité. Donc pour moi, le grand mal, il est là. Il est dans cette absence de dissociation entre croire et savoir. Parce que souvent, ceux qui sont opposés aux religions disent « je sais ». Mais non, pas plus. Vous voyez, à la question « est-ce que Dieu existe ?», il y a des gens qui vont répondre « je sais que oui, ah, chapeau ». Et puis il y a des gens, Michel Onfray, qui vont dire « je sais que non ». Bravo. Comment savez-vous ? Vous voyez ? Parce qu'en fait, non, ça reste optionnel, puisqu'on ne peut pas savoir. Donc voilà, c'est au nom de cette ignorance partagée qu'il faut créer un terreau de bienveillance et pour moi et de tolérance. Et c'est pour ça que je peux avoir, comme vous l'avez, cette espèce de curiosité encyclopédique des religions, c'est-à-dire voir ce que l'humanité a sous la dent pour essayer d'habiter le chaos de cette vie et l'obscurité qu'on ressent parfois.
Vous avez... Vous avez esquissé, Eric Emmanuel Schmitt, en partie cette dernière question que je voulais poser, qui est celle effectivement de cette interrogation sur les violences inhérentes aux religions. Elle est singulièrement effectivement réactivée par les violences qui sont commises aujourd'hui au nom du religieux, au nom d'un dieu. On ne peut pas faire autrement que de...
Ça, Claude Aget, je le montre très bien dans son livre, oui. C'est toujours une utilisation du religieux par du pouvoir pour des raisons d'économie, de pouvoir, de revendication de territoire, etc., etc. C'est-à-dire que le religieux est instrumentalisé dans toute l'histoire humaine. Même, je vous évoquais les croisades, les 8 croisades. Hein. Voilà, les 8 croisades et les 8 guerres de religion qu'il y a pu y avoir à l'intérieur du monde chrétien. On voit toujours qu'il y a des intérêts en œuvre qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Des intérêts économiques, des intérêts de revendication de territoire, un salut par rapport à la pauvreté. On va penser qu'on va faire fortune en allant à Jérusalem. Enfin, il y a toujours d'autres raisons. Je dirais pas impur, parce que le religieux n'est pas pur non plus, mais enfin, des rien, c'est hors spirituel.
Claude Agege, est-ce que...
C'est intéressant de faire, comme vous le faites, un rapprochement entre croire et savoir, et je suis tout à fait d'accord que un très grand nombre d'entre nous a un besoin de croire, et que le besoin de croire peut très bien être alimenté par des choses incroyables. Par exemple, la naissance d'une vierge, la filiation divine et la résurrection, c'est-à-dire trois données fondamentales du christianisme, sont totalement incroyables. On ne peut pas naître d'une vierge, on ne peut pas avoir une origine divine et on ne peut pas ressusciter. Néanmoins, ce que l'on constate, et je le dis dans mon livre, c'est que loin que ces trois... ces trois insultes à la raison, ces trois choses totalement invraisemblables qui sont le noyau même du christianisme et desservi le christianisme, elles l'ont au contraire profondément servi. Elles ont été à la base même de sa diffusion mondiale. Ce qui veut dire que les gens ont absolument besoin d'une croyance et en général, quand on dit croyance, quel est le complément d'objet du verbe croire ? En général, ce qu'on croit n'est pas une vérité. C'est parce que la vérité, c'est plutôt ce qui est enseigné par une recherche. Ce qu'on croit, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de se démontrer. Et c'est le terreau même des religions. Ce qui veut dire que je suis entièrement d'accord avec l'idée qui a été développée tout à l'heure, que notre croyance est quelque chose de fondamental et qu'il faut l'alimenter et que les religions n'ont pas d'autre objet que de donner un aliment à cette croyance. Néanmoins, je voudrais proposer une idée sur un point particulier. Au fond, dans les existences humaines, dans les destinées des communautés, des populations, y a-t-il des choses qui défient absolument toute raison, qui se proposent à notre regard comme des faits bruts et qui cependant ne devraient jamais exister parce qu'ils vont directement contre la plus élémentaire raison? Oui, il y en a, et je voudrais en citer une qui m'a toujours paru particulièrement révélatrice, c'est l'existence des Juifs. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons affaire à une communauté, la seule communauté, la seule, vous pouvez faire des recherches, j'en ai fait moi-même, dans le monde entier, dans les cultures du monde entier, vous ne trouverez jamais aucune communauté qui, depuis, disons, environ... construction de Jéricho, moins 900, prédication de Jérémie, moins 1000, moins 1200, moins 2000, depuis, disons, en gros, 4 à 5 000 ans, existe et continue d'exister, aujourd'hui sous la forme d'un État, au sens hegelien du terme, malheureusement pour lui et pour ses relations avec ses voisins, complètement renié par le monde arabe, constitué de l'ensemble de ses voisins. Voilà une population, voilà une communauté qui continue d'exister, non pas seulement par l'inertie même de son existence, de son action, etc., ou par le talent de beaucoup de ses représentants, bien connus. Il y a beaucoup de Juifs qui sont des gens remarquables, évidemment, dans la science, dans l'art, dans la littérature, tout le monde le sait, je ne vais pas insister là-dessus. Et puis en plus, insister dessus, malheureusement, est une des causes de l'antisémitisme. Par conséquent, je ferme cette parenthèse. Mais ce que je voudrais dire, c'est que non seulement on a affaire ici à une communauté humaine qui existe depuis des temps immémoriaux, mais en plus, cette communauté humaine, elle existe malgré des tentatives concertées, argumentées et épaulées de génocide. L'une, c'est Amalek, personnage biblique, le plus loin possible dans le temps, loin de nous, et l'autre, c'est Hitler et les nazis, à l'époque, disons, quasiment contemporaine. Entre Amalek et Hitler, il y a toute une série de tentatives de génocide perpétrées qui n'ont jamais réussi à rayer de la carte les Juifs, le peuple juif. Ils sont toujours là, qu'on le veuille ou non, qu'eux-mêmes, d'ailleurs, le veuillent ou non. En d'autres termes, si je me permets de citer ce phénomène, c'est parce que il est de l'ordre du défi de la croyance. Comment ces gens, qui sont contemporains de populations sumériens, acadiens, assyriens, qui aujourd'hui sont complètement enterrés dans la poussière des documents d'il y a 2000 ou 3000 ans, comment ces gens-là, qui ont été les contemporains de ces cultures totalement anéanties et disparues, objets de recherche scientifique, peuvent-ils être encore là, en chair et en os? On a affaire là à un mystère, et ce mystère, pour exister, est peut-être de l'ordre de la croyance. Les Juifs, les plus religieux d'entre eux, considèrent que le pacte que Moïse, leur chef à un moment, noue sous forme de religion contractuelle avec l'Éternel, avec le Dieu qu'ils appellent Adonai, avec l'Éternel, est le secret de leur permanence. Ceci n'est pas de l'ordre de la rationalité, ceci est complètement irrationnel, mais ce que nous en voyons, c'est le fait que ces gens-là, malgré une haine d'origine très souvent chrétienne, mais pas seulement, irrémissible, aussi vieille que leur histoire, sont toujours ici. Si je me permets, je ferme cette parenthèse sur le peuple juif, de citer ce phénomène, c'est parce qu'il est à verser au dossier de l'irrationalité. Son existence est de l'ordre de la croyance, car elle est complètement irrationnelle. Et cependant, elle est un phénomène brut d'aujourd'hui.
Eh bien, nous resterons sur cet exemple, puisque nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Je voudrais vous remercier infiniment tous les deux et bien sûr renvoyer à la lecture de vos livres respectifs. Merci beaucoup, bon après-midi à tous.